et chers amis, nous continuons cette série importante, l'importance de la rédemption. En effet, l'importance de la rédemption, c'est bel et bien une étude à comprendre et à se donner de la peine à désirer de la comprendre afin de mieux saisir ce que les Saintes Écritures ont à nous communiquer. Nous arrivons à l'étude numéro 8 et on pourrait donner à cette étude le titre de la loi, qui est en quelque sorte le chemin de la mort. Voyons cela de plus près. Il est dit dans la Sainte Parole que la lettre tue. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Comme toujours, je vais essayer de bien citer les versets bibliques qui correspondent à chaque étape au fur et à mesure que nous avançons dans cette étude, car tôt ou tard, vous pouvez réécouter un bout, noter les indications et vérifier dans votre Bible, et ainsi ça peut vous aider à mieux avancer dans la spiritualité de la Sainte Parole, de nous approcher, je dis nous, moi, j'aime faire cela, de m'approcher du Seigneur par ces moyens-là pour mieux comprendre les mystères de sa Sainte Parole. C'est important. Plus nous comprendrons de la Sainte Parole de notre Seigneur, plus nous pourrons l'aimer plus profondément, plus, disons, avec un quelque chose de plus en nous. Car simplement dire « moins j'en connais, mieux ça vaut », pourvu que je sois sauvé, bon, c'est une attitude que certains ont, et ils ont compris cela ainsi, mais c'est peut-être pas une garantie de pouvoir mieux lutter contre les attaques de partout autour de nous, dans la vie de tous les jours. C'est épouvantable aujourd'hui. Et donc, plus nous connaissons les mystères révélés, qui nous sont révélés uniquement parce que nous désirons d'approfondir la Sainte Parole. Et cela nous rend plus forts. Donc, nous avons dit la lettre tue. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. La loi étant un organisme est donc une unité indivisible. Quelqu'un respecterait-il toute la loi? Eh bien, s'il pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tous. Et il fait bon d'avoir la preuve de ce que vous venez d'entendre. Et notez Saint Jacques, chapitre 2, verset 10, et Galates, chapitre 3, verset 10. Toute distinction entre la loi morale et la loi cérémonielle, toute distinction dans ce sens est fausse en ce qu'elle suscite l'impression qu'il y aurait deux lois, dont l'une cérémonielle, elle serait accomplie par l'œuvre du Christ, tandis que l'autre ne le serait pas. Donc, pour distinguer les décrets individuels des deux sphères pris ensemble, on peut néanmoins parler de loi morale et cérémonielle au pluriel. Jacques chapitre 2, verset 8. La loi, en sa qualité d'organisme, se compose de membres qu'il est possible de distinguer. Et dans cette optique, on peut y voir trois groupes d'ordonnances: les devoirs moraux, les règles de l'adoration et les règles sociales. Les deux premiers ont une signification spirituelle spéciale dans l'histoire du salut. Les ordonnances sociales ont cependant, elles aussi, une signification dans cette histoire. Souvent, elles sont des types ou préfigurations prophétiques des, on peut dire, des vérités du Nouveau Testament. Et tout cela relatif au salut. Ainsi en est-il, par exemple, de l'année du jubilé. Et notez le Lévitique, chapitre 25, ainsi que Saint Luc, chapitre 4, verset 19. De la loi du rachat d'un parent ou de ses biens, là, on se souvient de l'histoire de Ruth, des villes de refuge, Josué chapitre 20, etc. Dans ces cas, les lois sociales sont dans la même perspective que les ordonnances cérémonielles typologiques. La loi produit donc la connaissance. Romains chapitre 3, verset 20, et chapitre 7, verset 7. On pourra dire A, la connaissance du péché, qui est la transgression, qui est la rébellion, hein, comme là-bas à Boston, en Amérique, ces jours-ci, avec ce qui est arrivé, là, c'est épouvantable, n'est-ce pas? Voilà deux jeunes, brillants, paraît-il même, eh bien, un attentat épouvantable, et on peut dire, là, il n'y a aucune conscience, il n'y a plus rien, parce qu'il y a eu tout de même, même des enfants qui ont dû être amputés, sans compter les morts. Donc, là, on voit très bien que si on n'a aucune connaissance qu'on désire ne pas étudier, serait-ce un minimum des lois qui nous ont été données par Dieu, eh bien, c'est la catastrophe. Et il faut absolument que nous puissions connaître ces lois-là pour ensuite comprendre qu'il y a des critères que nous devons respecter dans la vie. Une façon de vivre qui doit être respectueuse. Et on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Autrement, on deviendra semblable aux animaux, il me semble, voyez-vous. Donc, B, nous avons la connaissance de nous-mêmes, la connaissance de soi-même, le pécheur que nous sommes tous, va donc pouvoir reconnaître son péché et par là également son impuissance, ainsi que sa situation de perdu, parce que nous sommes, même en connaissant la loi, encore nous faisons partie de ceux qui sont perdus, qu'on le veuille ou pas. Donc, premièrement, nous avons la connaissance du péché. En effet, le péché, c'est la désobéissance, c'est la transgression, c'est l'illégalité, c'est le désordre, c'est la licence. Tout cela est donc important de connaître. Et là, vous pouvez noter Romains chapitre 5, verset 19, Hébreux chapitre 2, verset 2, 1er épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 4. Pour révéler ce caractère du péché, la loi doit non seulement décrire l'idéal, mais encore le prescrire. Donc, le prescrire de l'ordonner et de l'exiger de l'homme. Alors, là, elle devient réellement une loi. Et par là, le caractère du péché est fortement aggravé. Là où il n'y a pas de frontière, on ne peut vraiment parler de violation de territoire. Où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Romains chapitre 4, verset 15. Où cette ligne existe, il y a transgression pour toute non-observance. Et c'est depuis Moïse seulement qu'existe l'institution systématique et pédagogique de la loi, ayant pour conséquence nécessaire la connaissance du péché et de la transgression. La connaissance, elle œuvre à travers les siècles, et cela d'une manière ininterrompue, en mots et en symboles. Et là, notez spécialement Exode chapitre 20 et Hébreux chapitre 10, verset 3, verset 9. Hébreux chapitre 10, verset 3 et le chapitre 9 de Hébreux, verset 7. Il faut que je fasse attention de bien vous donner les chiffres exacts des citations bibliques. Il faut donc là se concentrer. Chers amis, ainsi la loi a moins pour objet l'existence du péché que la possibilité de l'imputation du péché. Car là où il n'y a point de loi, on l'a déjà dit, le péché n'est point imputé, Romains 5, verset 13. La loi, elle ne fait pas le péché, ça c'est certain, mais elle fait du péché une transgression à la loi. Et par là, toute faiblesse dans la condamnation du péché devient donc impossible. La loi produit la colère, Romains 4, verset 15. Le conflit devient rapidement plus aigu et le péché se trouve démasqué en sa qualité de rébellion. Voilà un mot à retenir. Le péché saisit l'occasion, Romains 7, verset 8, et se réveille en quelque sorte, Romains 7, verset 9. Et tout cela provoque la convoitise et l'acte, Romains 7, verset 8. C'est ainsi que le péché s'exprime dans les péchés. Romains 7, verset 5. Le péché s'exprime dans les péchés que nous commettons. et que la loi devient donc ainsi la puissance du péché qui pousse le mal du dedans, hein, qui se forme en nous, vers le dehors, pour éventuellement, un jour ou l'autre, l'exécuter. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 56. Le péché est en cela, en quelque sorte semblable à un fer brûlant, mais non encore porté au rouge. Au début, il brûle lentement sans être remarqué. Mais si quelques eaux viennent l'éclabousser, il siffle et se révolte. Cela signifie que le péché change ce don de vie de Dieu en une arme meurtrière. Le bâton de commandement du Très-Haut en un poignard. Le collyre même qui devait me rendre la vue est transformé en poison. Avec ce qui était saint, le péché a voulu tuer l'humanité. Et de là, de la chose sainte elle-même, il voulait donc en faire sa servante et de la révélation de Dieu, un instrument de Satan. Et c'est ici, pourtant, que la souveraineté de Dieu apparaît d'une manière spécialement victorieuse. Maintenant, la nature du péché est réellement démasquée pour la première fois. Il est rébellion, on a dit, hein, la rébellion contre Dieu. Rébellion contre le Très-Haut, la révolte dans le domaine de l'esprit et dans l'intention et usurpation du trône de la souveraineté mondiale de Dieu. Dieu a permis tout cela afin que le péché soit rendu manifeste et que soit dénoncé non seulement sa nature, mais encore ce qu'il a de condamnable au plus haut degré. Romains, chapitre 7, verset 13. Deuxièmement, nous avons pour le pécheur la connaissance de soi. En révélant la gravité du péché, la loi mettait en lumière la culpabilité du pécheur. Le pécheur n'est pas seulement un crime, hein, le péché n'est pas seulement un crime, mais c'est, et ça va devenir tôt ou tard, son crime. L'acte et l'auteur sont en quelque sorte inséparables. Et c'est à travers cette vérité que la loi porte un message personnel. Tout d'abord, l'iniquité du pécheur est révélée et par la perception de sa culpabilité, le pécheur voit s'évanouir sa joie de vivre. En ce que la loi a considérablement accru la responsabilité du coupable, elle l'a placé sous la malédiction. Et notez Deutéronome, chapitre 27, verset 26, et Galates, chapitre 3, verset 10. La loi produit donc aussi la colère. Romains 4, verset 15. Pour le pécheur, vivre n'a plus la même signification de plénitude. Étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie, et moi, je mourus. Romains 7, versets 9 et 10. Il ne reste maintenant pour l'âme qu'un désastreux pressentiment et une attente terrible du juste jugement. La lettre, la loi, a tué. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Et bien que sainte dans son caractère et juste dans ses sentences et salutaire dans ses desseins, selon Romains chapitre 7, verset 12, elle s'est cependant montrée la servante de la mort et du jugement. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7 et 9. Bien que n'en étant point la cause, elle a rendu effective la mort du pécheur. Il y a l'impuissance du pécheur. En l'homme, c'est-à-dire en son meilleur ego, l'entendement, selon Romains chapitre 7, verset 25, l'entendement peut s'éveiller cependant la volonté et l'intention de faire le bien. Romains 7, verset 18. Il lutte alors, il lutte contre le mal et donne joyeusement son assentiment à la loi. Romains 7, verset 16. Et vraiment, en ce qui concerne l'homme intérieur, il trouve son plaisir dans les commandements de Dieu. Romains chapitre 7, verset 22. Dans ce conflit, la victoire paraît aisée. Ce qui est bon semble à portée de la main. Romains 7, verset 18. Et pourtant, le résultat demeure une perpétuelle défaite. Notez Romains chapitre 7, versets 15 et 16. À la fin, l'homme ne se comprend plus du tout lui-même. Je ne sais plus ce que je fais. Sa propre conduite lui est absolument incompréhensible. Romains 7, verset 15. Il saisit qu'il ne détermine pas lui-même ses actes, mais que c'est le péché qui habite en lui. Il n'est pas même le maître de sa propre demeure, selon Romains chapitre 7, verset 17 et le verset 20. Et il se trouve intérieurement déchiré, faisant ce qu'il ne veut pas, et ne faisant pas ce qu'il veut faire. Romains chapitre 7, versets 15 et 16. Il est donc incapable d'aucun bien, selon Romains chapitre 7, verset 18 et Actes chapitre 15, verset 10. Il est donc en quelque sorte vendu au péché, Romains chapitre 7, verset 14, et en plus esclave du péché, qui est sa loi. Donc, on a compris qu'il est un pécheur perdu. Espérant, il désespère. Désespérant, il espère. Tout au-dedans le pousse à la honte. Il regarde au dehors et au-dessus de lui et s'écrie: misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Romains 7, verset 24. Or c'est là précisément, ce que la loi voulait obtenir, c'est-à-dire la prise de conscience de son besoin, le besoin d'un rédempteur, en même temps que celle de la sainteté et de la divinité de ce Sauveur. Avec la venue de ce rédempteur, la loi peut elle-même disparaître. Christ, comme but de la loi, est en même temps sa fin. Romains 10, verset 4. Et c'est ainsi que de l'objet vétérotestamentaire de la loi sortit ensuite la liberté néotestamentaire. Romains chapitre 7 et Galates chapitre 5. Le redoutable chemin de la mort par lequel la loi a conduit le pécheur était en même temps en Christ une mort du pécheur, et cela par rapport à la loi. Par la loi, je suis mort, mort à la loi. Galates chapitre 2 verset 19 et notez Romains chapitre 7 verset 1 à 6 et encore Colossiens chapitre 2 verset 20 et 21. La loi a conduit le pécheur toujours plus bas jusqu'au désespoir et au sentiment de la mort. Mais c'est précisément par la même qu'elle le conduisait en haut afin de lui permettre de saisir la vie. Tel était donc le chemin de cette douleur religieuse qui produit le salut. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Après être descendu dans l'enfer de la connaissance de soi, une céleste ascension peut commencer par la connaissance du salut et du Christ. Ça devient important. Rendre un témoignage plus exact de lui, tel était donc le but des ordonnances relatives au service divin dans le temple et au sacerdoce. Au fait, la loi. Eh bien, voyez-vous, la loi, c'est le chemin de vie. La Bible dit, la loi de Dieu est parfaite et elle restaure l'âme. Psaume 19, verset 8. Le service religieux dans le temple juif avait un sens double, c'est-à-dire établir la relation qui lie Israël à Dieu dans le royaume de Dieu et prophétiser par des images l'œuvre du Christ. L'un est symbolique et l'autre est typologique. Le symbole, c'est l'enveloppe visible de quelque chose d'invisible. Le vêtement matériel d'une vérité plus élevée, à la fois impression et expression d'une chose spirituelle située au-delà du domaine des sens. Donc, le type est un symbole prophétique. C'est une personne, une chose, une institution ou un événement qui se rapporte au Christ et à son œuvre de rédemption. C'est une ombre des choses à venir. Hébreux, chapitre 10, verset 1, chapitre 9, verset 11, et Colossiens, chapitre 2, verset 16 et 17. Donc, en quelque sorte, un préétablissement des choses célestes. Hébreux, chapitre 9, verset 23. Le symbole reste dans la loi, alors que le type regarde vers la grâce, devenant ainsi comme un fragment de l'Évangile. Chers amis, nous devons d'abord bien comprendre la communion avec Dieu dans l'Ancien Testament. Par ce quadruple lien, le Seigneur s'unissait à son peuple. Les ordonnances morales rendaient manifeste la distance qui séparait le pécheur du Dieu saint. Le service cérémoniel, quant à lui, avaient pour objet principal la communion. Les sacrifices constituaient en fait un rappel annuel du péché, Hébreux chapitre 10 verset 3, et en cela se trouvaient donc sur le même plan que la loi morale. Néanmoins, leur signification essentielle pouvait atteindre une certaine forme de pardon ou couverture, une couverture des péchés, selon Lévitique chapitre 4 verset 20 et le chapitre 5 verset 10. Et c'est pour cela que les sacrificateurs étaient appelés ceux qui s'approchent, Lévitique chapitre 10 verset 3. Donc le lieu du culte, c'est la tente d'assignation ou de rassemblement. Et c'est là que se retrouvaient Israël et Dieu. Exode, chapitre 33, verset 7, et le chapitre 40, verset 34. Alors, l'idée de base du service sacerdotal mosaïque avait donc en vue non seulement la propitiation, mais encore la réconciliation, non une simple compensation découlant d'un droit juridique, mais une reprise de communion et de relation découlant d'un amour rédempteur. Cette réconciliation est en effet rendue possible. Elle est rendue possible par le sacrifice mosaïque en ce qu'il ouvre en quelque sorte le péché hébreu, c'est-à-dire qu'il le couvre. Ça vaut la peine de répéter parce que on pourrait mal comprendre, pas ouvre mais couvre. Donc je répète, cette réconciliation est en effet rendue possible par le sacrifice mosaïque en ce qu'il couvrir le péché. Hébreux chapitre 10 et le chapitre 11. Les sacrifices, ils ne peuvent évidemment pas enlever les péchés, on l'a compris, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs puisse ôter les péchés. Hébreux chapitre 10 verset 4 et le verset 9 et 11. Seul le sacrifice du Christ allait donc pouvoir permettre tout cela. Hébreux chapitre 9 verset 26. Mais en tant que regard tourné à l'avance vers Golgotha, ce sang couvrait donc les péchés dus aux faiblesses, les soustrayant en quelque sorte pour un temps, et les soustrayons pour un temps à la vue du Seigneur. Tel était donc le rôle assigné au sacrifice, et à cause de leur relation à la croix, telle était aussi la force du système. Avant Golgotha, l'humanité dans son ensemble était au bénéfice de l'indulgence de Dieu. Romains chapitre 3 verset 25. Israël, sur la base de ses sacrifices, avait part à un certain pardon des péchés et à une certaine communion avec Dieu, relativement limitée mais absolument réelle. Donc, il y avait la connaissance du péché, nous dit saint Paul, Romains chapitre 3 verset 20, la couronne de bonté et de miséricorde, nous dit David dans le psaume 103 verset 4. La lettre tue, nous dit l'apôtre, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Or la loi restaure, dit le psalmiste, psaume 19, verset 8. Misérable que je suis, lisons-nous dans l'Épître aux Romains, Romains 7, verset 24. « Et heureux l'homme affirme les psaumes. » Psaume chapitre 1, verset 1 et le chapitre 32, verset 1. « Malédiction, dit celui qui fut naguère pharisien. » Galates chapitre 3, verset 13. « Le Seigneur te bénisse, affirme le grand prêtre. » Dans Nombre chapitre 6, verset 24. Et pourtant, l'un et l'autre parlent de la même loi, et les deux ont absolument raison. La loi est en effet semblable à l'aiguille de la boussole. Elle indique un seul but, le Christ. Cependant, elle est en elle-même une unité de deux pôles, et cela en ce qu'elle exige sur le plan de la conduite, elle est donc d'abord sainteté dans son service de Dieu et principalement amour. Et en ses lois morales, la séparation. Donc, dans ses règles de conduite, elle lie. Dans ses lois sacerdotales, elle rend libre. Là, autorité et ici, rédemption. Vous avez compris, là, il y a l'autorité et ici, il y a la rédemption. Là, il y a la mise à nu. Ici, il y a le manteau qui couvre. On a bien compris qu'il va couvrir. Et là, il y a propitiation et ici, il y a la réconciliation. En quelques mots, les lois morales sont semblables à un palais de justice, les ordonnances cérémonielles sont pareilles à un temple. Cependant, les deux sont indissolublement liés comme les deux pôles de la boussole. Il y a en effet une seule loi d'Israël. Jacques, chapitre 2, verset 10. Avec un seul médiateur, c'est Moïse, et un seul but, c'est le Christ. C'est lui qui apporte aux deux pôles leur accomplissement. En réponse aux lois morales, la grâce. En réponse aux lois cérémonielles, la vérité. La substance au lieu de l'ombre, Colossiens chapitre 2 verset 17 et Hébreux chapitre 10 verset 1. Ainsi, la loi fut donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, Saint Jean chapitre 1 verset 17. Cela doit donc suffire à montrer qu'il serait complètement faux de concevoir l'Ancien Testament simplement comme une première étape maintenant surmontée vers le Nouveau Testament. L'Esprit Saint était l'âme de la loi. Notez la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 11, Hébreux, chapitre 3, verset 7, et Ézéchiel, chapitre 31, verset 3. L'Ancien Testament, sans le Nouveau, est donc un édifice sans toit. Le Nouveau Testament, sans l'Ancien, est une maison sans fondement, flottant en quelque sorte dans les airs. L'Ancien Testament garde ainsi ses droits et le Nouveau, ses privilèges. Le Nouveau est voilé, mais déjà effectivement contenu dans l'Ancien. L'Ancien est dévoilé en même temps que glorieusement développé dans le Nouveau. Dans l'Ancien, le nouveau est caché, dans le nouveau, l'ancien est révélé, selon Augustin. L'ancien est le bourgeon en lequel toute la splendeur de la fleur est déjà présente, mais encore enfermée. Le Nouveau Testament est la fleur épanouie, ouverte dans le déploiement de toute sa gloire et dont le parfum se répand pour la joie de tous. L'Ancien et le Nouveau Testament sont donc un et pourtant chacun est distinct. Chers amis, de cette unité historique reliant les millénaires découle que même au temps de l'Ancien Testament, Dieu était à même de donner une certaine pré-présentation ou avant-goût du salut à venir, et cela sous la forme de prophéties en actes et en faits, inclus dans le service cultuel et les institutions dans les grandes lignes de l'histoire ou les faits individuels, chacun ayant pour but Christ et son œuvre de rédemption. Très souvent, le Christ et ses apôtres ont reconnu à l'Ancien Testament une telle signification prophétique ou typologique. Ils lui ont conservé, si l'on peut dire ainsi, sa relation directe avec l'histoire du temps de sa rédemption. Mais ils l'ont considéré sous l'angle nouveau de son but et de sa signification effective. Colossiens chapitre 2 verset 17 et Hébreux chapitre 10 verset 1. C'est ainsi que le serpent d'airain est un type de la croix. Saint Jean chapitre 3 verset 14. Le prophète Jonas est un type de la résurrection. Saint Matthieu chapitre 12 verset 40. Et la manne dans le désert, c'est une image du Christ en sa qualité de pain de vie. Saint Jean chapitre 6, versets 31 à 35. Plus encore que le reste, ce sont les institutions et prescriptions relatives aux offrandes et aux sacerdoces qu'il convient de noter ici. À travers elles et avant le Christ, l'œuvre du Seigneur était comme préorganisé en symbole. Il est l'original dont elles étaient préfiguration. Elles étaient un type du Christ. Il fut leur accomplissement. Hébreux chapitre 8 verset 5 et chapitre 9 verset 23 à 25. Néanmoins, aucun de ces actes sacerdotaux n'avaient de valeur en soi. Hébreux chapitre 10 verset 4. Leur vertu, ils la recevaient du seul sacrifice de Golgotha. Ils étaient sans force et pourtant agissant. Ils étaient pauvres et pourtant enrichissant. Ils étaient infirmes et pourtant dispensateurs de bénédictions. Elles étaient semblables à des traits tirés sur une banque nationale, des simples feuilles de papier en elles-mêmes, possédant pourtant une valeur avance, on peut dire une valeur avant leur échéance, et cela par la seule perspective du jour de l'encaissement. Par le sacrifice de sa mort en croix, Jésus-Christ a donc pleinement honoré ses traits de l'Ancien Testament. Tout d'abord, nous avons l'offrande mosaïque de tout le service accompli dans le temple en Israël. L'offrande, c'est l'acte suprême. Quatre exigences essentielles en constituent l'idée de base. Premièrement, en ce qu'elle devait être sans défaut, l'offrande souligne donc la sainteté du Seigneur Jésus, d'une part affranchie de tout héritage du péché, et cela grâce au miracle de sa naissance, et d'autre part libre de tout péché effectif par la sainteté de sa conduite. Deuxièmement, l'imposition des mains par laquelle l'offrant s'identifie à l'offrande qui souligne comment le Seigneur Jésus a accepté de porter la culpabilité. Quand le Christ, l'homme sans péché, se soumit volontairement au baptême de repentance pour le pardon des péchés, selon saint Marc chapitre 1 verset 4, il manifestait ses dispositions volontaires à accepter la place du pécheur et à devenir un avec lui et à porter les péchés de l'humanité, selon saint Matthieu chapitre 3 verset 14 et 15. Disposition qui fut pleinement et historiquement réalisé, où cela ? À la croix. Premier épître de Pétre, chapitre 2, verset 24. Troisièmement, à Golgotha, Jésus endura le châtiment. C'est en cela que la mise à mort de l'offrande était une prophétie concernant la croix. Hébreux, chapitre 9, verset 13 et 14. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux chapitre 9, verset 22. Ces trois premiers préceptes relatifs au sacrifice se rapportent à l'œuvre du Christ sur la terre. Au jour de sa chair, il avait souffert pour nous afin de nous assurer un plein salut. Hébreux, chapitre 5, versets 1 à 9. Mais ce qui nous a été acquis doit encore être approprié. Ceci ne s'accomplit que par la foi et dans l'unité qui en résulte, liant débiteur et garant, selon saint Jean, chapitre 6, verset 53. Christ, pour nous, doit donc devenir Christ en nous. Je répète, Christ pour nous doit donc devenir Christ en nous. À son sacerdoce sur la terre doit s'ajouter un sacerdoce dans le ciel. C'est l'unité organique préfigurée par, quatrièmement, le repas qui accompagnait le sacrifice. Voyez-vous, si vous ne mangez, nous est-il dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous ne pouvez avoir la vie en vous-même, disait le Christ. Je répète, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous ne pouvez avoir la vie en vous-même, disait Jésus-Christ. Et notez saint Jean, chapitre 6, verset 53 jusqu'au verset 57. D'où la persistance de l'humanité du Christ dans sa résurrection corporelle et l'envoi de son esprit afin de rendre possible l'unité avec les rachetés. Et de là encore, la nécessité de la nouvelle naissance de l'individu, de la communion organique qui doit unir les membres à la tête. On le voit, le sacrifice mosaïque embrasse tout l'œuvre du Christ, et cela de la naissance au baptême, du baptême à la croix, et au-delà même de la croix, jusqu'à la résurrection et en l'envoi de l'Esprit Saint. Donc, en fait, jusque et y compris son ministère éternel de souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek. Ensuite, nous avons le tabernacle. Le tabernacle qui est, premièrement, une image de l'univers et ce sous l'angle particulier du royaume de Dieu. Cela est rendu spécialement évident au moment de l'entrée du grand prêtre dans le lieu très saint, au grand jour des expiations cérémonielles, qu'il est aisé de relier à l'accomplissement néo-testamentaire en Christ. Notez Lévitique chapitre 16 et Hébreux chapitre 9 versets 23 et 24. Les objets du tabernacle étaient des figures des choses célestes, selon Hébreux chapitre 9 verset 23. Après Golgotha, le Christ n'entre pas dans un sanctuaire fait de main d'homme, simple représentation du vrai sanctuaire, mais dans le ciel même, afin de paraître pour notre salut devant la face de Dieu le Père. Il découle donc de cela que le sanctuaire terrestre est une figure du céleste, et que comme le grand prêtre de la famille d'Aaron traversait le lieu saint avec le sang des offrandes consumées dans le parvis, et cela afin d'entrer dans le lieu très saint, selon Lévitique chapitre 16, versets 11 à 14. Ainsi, le Christ a traversé les cieux, et cela avec son propre sang versé. Ça change tout. Hébreux chapitre 9, verset 12. Et ceci à l'autel terrestre de Golgotha, afin de paraître devant le trône de grâce de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 14 à 16. Dans le lieu très saint de l'univers et au-dessus de tous les cieux, selon Hébreux chapitre 7, verset 26. Et Éphésiens, chapitre 4, verset 10. Sur la terre, Dieu poursuit une double tâche, la justification et la sanctification du racheté. Aussi y avait-il deux objets dans le parvis, l'autel des offrandes consumées par le feu et le bassin de purification, selon Éphésiens, chapitre 5, versets 25 et 26. Dans le ciel sont et se trouve la vie, se trouve la lumière et l'adoration de l'Éternel au milieu des esprits célestes. La table des pains de proposition, c'est-à-dire le pain de vie en Saint Jean, chapitre 6, verset 48. Le chandelier, l'autel, c'est l'autel des parfums. Psaume 141, verset 2 et Apocalypse, chapitre 8, verset 3. Et les figures des chérubins sur le couvercle de l'arche et sur le voile rendant témoignage à ces vérités célestes. Au-dessus de tous les cieux, se trouve le trône de Dieu lui-même. Chers auditeurs et chers amis, s'il vous plaît, écoutez attentivement jusqu'à la fin de cette étude. Je répète, au-dessus de tous les cieux se trouve le trône de Dieu lui-même. Et là est la loi qui régit l'univers, de même que dans le lieu très saint se trouvent les tables de la loi. 1 roi, chapitre 8 et 9. Là se trouve aussi la grâce qui pardonne. Je répète, là se trouve aussi la grâce qui pardonne, faisant du trône de la souveraineté divine un trône de grâce. Exode, chapitre 25, verset 17, et Hébreux, chapitre 4, verset 16. Et par-dessus tout, la lumière de la gloire de Dieu, pareil à la nuée de la Shekinah, illuminant tout le reste. Exode, chapitre 40, verset 34 à 35, et 1 Timothée, chapitre 6, verset 16. Tous ces plans d'amour, Dieu les accomplit en Christ, et c'est pour cela que le tabernacle devient en même temps comme un doigt pointé vers le Christ. Ainsi, le tabernacle est-il, deuxièmement, un type du rédempteur du monde? Je répète, deuxièmement, un type du rédempteur du monde en Christ, la parole incarnée, qui a dressé sa tente parmi nous. Saint Jean, chapitre 1, verset 14. Et tous les types du tabernacle sont maintenant accomplis. Christ, en effet, est notre justification, l'autel des offrandes consumées. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Christ est notre sanctification, le bassin de purification. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Il nous a établis dans les lieux célestes. Éphésiens, chapitre 1, verset 3, chapitre 2, verset 6. Le lieu saint, c'est l'image des cieux. Hébreux, chapitre 9, verset 24. En ces lieux célestes, de notre position, il est donc notre lumière. Il est le chandelier à sept branches. Saint Jean, chapitre 8, verset 12. Il est notre pain. Oui, les pains de proposition. Saint Jean, chapitre 6, verset 48. Et il est notre souverain sacrificateur et intercesseur. C'est l'autel d'or des parfums. Chapitre 7 de Hébreux, verset 26. Psaume 141, verset 2. Et Saint Jean, chapitre 17. Finalement, il nous introduira en sa présence, qui est le lieu très saint, et recevra l'adoration du peuple qu'il a racheté, lui, l'agneau immolé, l'arche de l'alliance, et son propitiatoire aspergé de sang. Romains 3, verset 25. Donc en lui, nous serons nous-mêmes rendus conformes à sa ressemblance, selon Romains chapitre 8, verset 29, et la première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 2. Donc, chers amis, troisièmement, nous avons un type de la communion et de la voie du salut. Ceux qui croient, c'est ceux qui croient. Écoutez bien, on peut dire, on peut vraiment le dire, considérés d'en bas, ils sont justifiés et ils arrachent aux ténèbres et à la puissance du péché. C'est donc l'autel des offrandes consumées. Voyez-vous ? Je voudrais dire, à la place de dire « c'est », je vais peut-être dire « comparer ». Alors je recommence. Nous avons troisièmement un type de la communion et de la voie du salut, ceux qui croient. Alors écoutez bien ce qui suit. Considérés d'en bas, ils sont justifiés et ils sont arrachés aux ténèbres, à la puissance du péché. C'est l'autel des offrandes consumées. Donc, considérés du dedans, ils sont sanctifiés par le lavage d'eau, la sainte parole, comparés la cuve de purification. Éphésiens chapitre 5, verset 26. Considérés du dehors, ils brillent comme des flambeaux, lui rendant témoignage, comparés le chandelier, Apocalypse chapitre 1, verset 12, chapitre 2, verset 5, et Zacharie chapitre 4. Considérés d'en haut, ils prient et ils adorent avec l'encens de la louange. Comparez l'autel d'or, Apocalypse chapitre 8, verset 3, et le psaume 141, verset 2. Considérés à tous égards, ils sont fortifiés par le pain de vie. Ce sont les pains de proposition. Saint Jean, chapitre 6, verset 48. Enfin, en ce qui concerne la marche en avant, ils se hâtent afin d'apparaître devant son trône, comparés à l'arche de l'Alliance. Par toutes ces figures, le culte rendu par les Israélites devenait une prophétie sublime du bout du but, écoutez, du but réalisé en Christ. Je répète, par toutes ces figures, le culte rendu par les Israélites devenait donc ainsi une prophétie sublime du but qui a été réalisé en Christ. Et c'est là le plus prophétique des éléments de la loi de l'Ancien Testament, en même temps qu'un chaînon reliant la loi à la prophétie. Et quatrièmement, nous avons la supériorité de l'ordonnance néo-testamentaire. En tout cela, nous avons l'accomplissement dès qu'il dépasse de beaucoup chacun des types. Saint Matthieu chapitre 13, versets 16 et 17. Par exemple, oui, par exemple, dans l'ancienne alliance, nous avons une partie qui était donnée pour le tout. Un douzième pour douze douzièmes, comme en ce qui concerne la tribu de Lévi, mis à part par le sacerdoce. Notez Nombre, chapitre 8, versets 16 à 18, au lieu de Exode, chapitre 19, verset 6. Un dixième pour dix dixièmes, en ce qui concerne la dîme offerte, selon Lévitique, chapitre 27, verset 30. Un septième pour cette septième par la sanctification du sabbat. Exode chapitre 20 verset 8 à 11. Et dans la nouvelle alliance, par contre, tout, absolument tout, est réclamé. Voyez la différence. Non une tribu de prêtres, mais un royaume de prêtres. Premier épître de Pierre, chapitre 2, versets 5 et 9. Non pas un dixième de nous-mêmes, de moi-même, mais notre être tout entier. Colossiens, chapitre 3, verset 17. Non un jour, mais toute la semaine. Colossiens, chapitre 2, verset 16 et 17. Ainsi que Romains, chapitre 14, verset 5 et le verset 7 à 8. Et non seulement la semaine, mais toute l'année, toute la vie, le temps et l'éternité. Donc, dans l'ancienne alliance, là, c'était que l'ombre. Mais dans la nouvelle alliance, c'est le corps. Colossiens chapitre 2 verset 17 et Hébreux chapitre 10 verset 1. Car la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Saint Jean chapitre 1 verset 17. Dans l'ancienne alliance, il y avait la place pour quelque tolérance, et cela à cause de la dureté de leur cœur. Saint Matthieu, chapitre 19, verset 8. Par contre, la nouvelle alliance retentit du solennel, mais moi je vous dis. Notez Saint Matthieu, chapitre 5, verset 22, et le verset 34, ainsi que les versets 38 et 39. Dans l'ancienne alliance, il y avait pluralité de sacrifices, selon Nombre, chapitre 28 et chapitre 29. Il n'y en avait pas moins de 1273 par année, soit plus de 2 millions entre Moïse et Christ, compte non tenu des offrandes qui étaient privées. Du Christ, par contre, il est dit par une seule offrande. Je répète, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours tous ceux qui sont sanctifiés. Hébreux, chapitre 10, verset 14. Christ a donc non seulement accompli, mais encore surpassé tout ce que la loi contenait de symbolique et de prophétique. La loi fut donc une haie, une bride et un frein. Elle était donc une règle, une barrière et un miroir. Mais c'est la croix du Christ qui en est le sceau impérissable. Daniel chapitre 9 verset 24. Et c'est pourquoi, oui, c'est pourquoi, départez-vous de vos propres conceptions et de vos propres sentiments et considérez cette sainte écriture comme étant le sanctuaire le plus élevé, le plus saint et le plus noble, comme la plus inépuisable mine de richesses à jamais insondable. Et cela afin que vous puissiez trouver la sagesse divine que Dieu seul établit ici, si simplement qu'elle peut éteindre absolument tout orgueil en nous. Chers amis, nous allons donc terminer, si vous le voulez bien, par la prière. Avant de prier ensemble, je voudrais vous dire quelques phrases d'un très ancien cantique. Hélas, ils sont nombreux les moments de nos peines. Souvent, nos durs sentiers traversent le désert. Mais là même, ô Jésus, jaillissent les fontaines. Là même, ton rocher nous reçoit à couvert. Non, dans les sombres jours de ta marche pénible, jamais, ô racheté, tu n'es seul ici-bas. Ton berger, ton sauveur, se tient, quoique invisible, sans cesse à tes côtés, et veille sur tes pas. Prions. Ô Dieu, notre Père, qui châtie celui que tu aimes et qui frappe de tes verges tous ceux que tu reconnais pour tes enfants. Que tes dispensations sont si diverses que les épreuves que tu nous envoies sont variées et quelquefois multipliées. Donne-nous, Seigneur, de reconnaître ta main dans cette discipline paternelle dont nous sommes souvent les objets, afin que nous puissions tout supporter avec patience, avec douceur et avec joie. Que chaque épreuve que tu nous envoies produise en nous un fruit paisible de justice. Que nous ne nous tenions pas comme tremblants sous ta main redoutable, mais que nous puissions en tout temps te bénir et t'adorer comme notre Dieu sauveur. Que ainsi, au lieu de subir nos épreuves comme des malheurs auxquels nous ne pouvons nous soustraire, nous les acceptions dans l'Esprit de Jésus, tellement qu'elles se changent pour nous en bénédictions réelles et que notre volonté soit rendue de plus en plus conforme à la tienne. Préserve-nous aussi de regarder aux causes, oui, aux causes secourables et secondaires, et de nous y appesantir. Élève nos regards au-dessus de toutes les circonstances extérieures vers toi, ô notre Père, tellement qu'au lieu de nous complaire dans une douleur stérile et égoïste, nous nous appliquions à recueillir le fruit de l'épreuve. Dieu des affligés, Dieu de toute consolation, quelle grâce de pouvoir crier à toi dans toutes nos détresses. Nous te recommandons tous ceux qui sont affligés de quelque manière que ce soit, afin que tu les consoles, que tu fortifies leur cœur en toi et que tu nous rendes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Et quand nous voulons rendre gloire et adoration à jamais. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et la suite à demain matin, Dieu voulant. Le Seigneur vous bénisse. Au revoir, mes très chers amis.